Le journal vous est présenté par Mathieu Laurent. Bonsoir à tous. Deux ex-skinheads condamnés à 11 ans et 7 ans de prison ferme, reconnus coupables de la mort du militant antifasciste Clément Méric, fauché en pleine rue à Paris il y a 5 ans, compte rendu d'audience de Florence Turm. Invité de cette édition, le politologue et spécialiste des extrêmes droites Jean-Yves Camus. Paul Manafort, ex-directeur de campagne de Donald Trump, négocie un accord avec Robert Mueller, le procureur spécial en charge de l'affaire dite des ingérences russes. De quoi faire ressurgir la question suivante. Y a-t-il eu collusion entre Moscou et l'équipe Trump? Certainement pas, répond ce soir à la Maison-Blanche, précision de Loïc Loury. L'affaire Benalla ne cesse pas d'électriser la classe politique française. Après le chef de l'État, c'est au tour de Christophe Castaner, secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, de faire pression sur la commission d'enquête sénatoriale. Nous retrouverons en fin de journal notre envoyé spécial sur la côte est américaine, Grégory Phillips, en Caroline du Nord, là où l'ouragan Florence déverse ses pluies diluviennes. Un plaidé coupable et non des moindres dans l'enquête sur d'éventuelles ingérences russes lors de la dernière présidentielle américaine. Paul Manafort décide de coopérer avec la justice et le procureur Mueller, Robert Mueller, procureur spécial. L'ancien directeur de campagne de Donald Trump plaide coupable de conspiration contre les États-Unis et entrave à la justice. La Maison-Blanche vient de réagir et prétend que cette affaire, je cite, n'a rien à voir avec l'actuel président. Loïc Loury nous appelle de New York.
Paul Manafort n'aura donc pas tenu jusqu'au bout. Moins d'un mois après un premier procès en Virginie, cet homme bien, selon les mots de Donald Trump, jette l'éponge. En attente de condamnation pour fraude bancaire et fiscale, notamment, l'ex-directeur de campagne devait être jugé à Washington dans les prochains jours pour des faits aussi graves. Il n'en sera finalement rien. Aujourd'hui, en effet, il a passé un accord avec la justice et plaidé coupable pour deux chefs d'accusation au lieu des sept reprochés, association de malfaiteurs contre les États-Unis et entrave à la justice. Paul Manafort évite ainsi un nouveau procès coûteux, un procès à risque, surtout dans l'ombre de l'enquête russe du procureur spécial. Pour Robert Mueller, ses poursuites liées à des activités de lobbyiste de Manafort en Ukraine sont en effet un moyen de pression énorme sur un témoin clé de la campagne Trump, sur un proche du président. Paul Manafort est le cinquième homme de cette même campagne à abdiquer face à la justice.
La fermeté de la chancelière allemande à l'égard de Moscou, Angela Merkel, s'oppose à la levée des sanctions européennes contre la Russie, tant qu'il n'y aura pas de progrès dans le processus de paix en Ukraine orientale. Accusé de bafouer les libertés et les valeurs de l'Union européenne, le Premier ministre national-conservateur hongrois Viktor Orban juge, je cite, « sans danger pour son pays » l'ouverture par le Parlement européen d'une procédure pouvant mener à des sanctions contre Budapest. Le ministre autrichien de l'Intérieur, Herbert Kickl, membre du parti d'extrême droite FPE, propose d'organiser sur des embarcations en mer le tri entre réfugiés et migrants ne relevant pas du droit d'asile. Cette proposition avancée à Vienne l'a été justement aux côtés de son homologue italien Matteo Salvini. Trois Palestiniens, dont un enfant de 12 ans, tués aujourd'hui, 50 autres blessés par des tirs de soldats israéliens lors de manifestations et de heurts dans la bande de Gaza, le long de la frontière avec Israël. La cour d'assises de Paris a donc rendu son verdict un peu plus de 5 ans après la mort de Clément Méric, militant antifasciste tombé sous les coups de skinhead dans les rues de Paris. Après 9 heures de délibéré, la cour a acquitté l'un des trois accusés, Alexandre Hérault, estimé qu'il n'avait pas pris part à la rixe. Mais les autres ont eux été reconnus coupables et condamnés à des peines de 11 ans de réclusion pour Esteban Morillo, auteur des coups mortels, et 7 ans d'emprisonnement contre Samuel Dufour, qui était à ses côtés. C'est un compte-rendu d'audience signé Florence Turm. Florence, vous avez recueilli également la réaction des parents de Clément Méric.
Esteban Morillo et Samuel Dufour, reconnus l'un et l'autre coupables des violences volontaires qui ont entraîné la mort de Clément Méric, les jurés ont également répondu oui aux deux questions qui ont traversé les débats tout au long de ce procès. La circonstance aggravante des violences commises en réunion et celle de l'arme, ce point américain dont la défense a contesté l'utilisation. Un verdict très proche des réquisitions de l'avocat général. Les parents de Clément Méric l'ont accueilli avec la même dignité qu'ils ont conservée durant tout le procès.
La décision de la cour d'assises établit des responsabilités. Et ce qui est important aussi, c'est qu'elle fait un sort au mensonge concernant le comportement de Clément et de ses amis. Il y a eu des agresseurs, il y a eu des agressés. Ils ne sont pas renvoyés dos à dos, contrairement à ce qui a été trop souvent fait pendant ces 5 dernières années.
Ceci étant, l'incarcération, ce n'est jamais une victoire. Nous considérons que ce qui importe aujourd'hui, c'est de continuer à lutter contre tout ce qui fait le terreau de l'extrême droite, c'est-à-dire les inégalités, c'est-à-dire le déficit d'éducation, c'est-à-dire le manque de solidarité.
À l'énoncé du verdict, Samuel Dufour, lui, s'est effondré en larmes. Sa défense n'a pas réussi à convaincre les jurés qu'il n'avait pas frappé Clément Méric. Il repart en prison, tout comme Esteban Morillo, alors qu'ils comparaissaient libres tous les deux. Mais on sait déjà qu'il y aura un second procès. Leurs avocats ont aussitôt annoncé leur intention de faire appel.
Florence Sturm à la Cour d'assises de Paris. Comme convenu, nous sommes en ligne avec notre invité, spécialiste des extrêmes droites en France et en Europe. Bonsoir Jean-Yves Camus.
Bonsoir.
Attardons-nous avec vous sur les idéologies sous-jacentes, voire inassumées, qui ont imprégné ce procès. Les accusés seraient des sympathisants de troisième voie, selon Serge Ayoub, figure de l'extrême droite radicale, cité à comparaître. Serge Ayoub, fondateur de troisième voie et leader des jeunesses nationalistes révolutionnaires. Jean-Yves Camus serait-il débordé, Serge Ayoub, par la jeune génération sur le créneau du nationalisme de combat ?
Oh, Serge Ayoub a une très longue expérience de ce que vous appelez le nationalisme de combat, à la fois de manière théorique, à travers les différentes publications auxquelles il a collaboré, mais surtout dans la rue. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui caractérisait principalement, non pas troisième voie, mais surtout les jeunesses nationalistes révolutionnaires qui en étaient en quelque sorte la garde prétorienne et qui ont été dissoutes en même temps, c'est cette sorte de milice était au fond à son service, avec un culte du chef assez prononcé. Il y avait évidemment une idéologie dite nationaliste révolutionnaire ou solidariste selon les époques, mais au fond, ce qui me paraissait, moi, différencier ce mouvement des autres mouvements d'extrême droite français, c'était justement l'aura du chef, l'emprise en quelque sorte que Serge Ayoub avait sur des gens qui n'étaient pas tous des gamins. Beaucoup des membres des INR étaient plus âgés que Serge Ayoub lui-même. C'était véritablement des adultes. Les gens qu'on a vus dans le box étaient sans doute parmi les plus jeunes du groupe. Donc il y avait à un moment donné quelque chose qui était présenté comme une avant-garde militante par Serge Ayoub, mais qui par certains côtés était plutôt une garde prétorienne qui lui était dévouée.
À mes côtés, Jean-Yves Camus, Antoine Marette, auteur d'un récent magazine pour le compte de la rédaction, Le Vieux Lion face à l'ultra-droite. Antoine.
Bonsoir Jean-Yves Camus. Il y a deux thèses qui s'affrontent dans ce procès. Celle de la défense, une simple bagarre entre deux bandes rivales qui a mal tourné, et celle des partis civils, une agression directement liée à l'idéologie politique. Est-ce que vous privilégiez l'une de ces deux thèses ?
Il y a, à mon sens, évidemment, une dimension politique à ce qui s'est passé. Le problème, c'est que cette dimension politique, par rapport à ce que j'ai connu à mon époque, comme force et comme forme de militants antifascistes, m'apparaît singulièrement dérisoire. Parce que de quoi s'agit-il ? De gens qui, effectivement, ont une idéologie. Deux idéologies diamétralement opposées et qui se combattent, mais qui se retrouvent dans un lieu où ils achètent des vêtements, où ils achètent du symbole, où ils achètent de l'appartenance à un groupe, un mort si jeune pour une affaire qui certes a un fond politique, mais enfin, tout ça se passe dans une vente privée de vêtements, c'est assez dérisoire, me semble-t-il.
Ce qui frappe également dans ce procès de l'affaire Méric, c'est l'affrontement entre deux mondes, celui de l'extrême gauche, composé d'étudiants, parfois brillants, Clément Méric était élève à Sciences Po, avec une matrice idéologique très forte, et face à eux, une ultra-droite composée de jeunes, souvent en déshérence, en échec scolaire, sans véritable bagage conceptuel. Est-ce que ces différences, on les retrouve régulièrement entre l'extrême-gauche et l'ultra-droite ?
À quelques exceptions près, j'ai connu un cadre de troisième voie qui était un étudiant brillant issu d'une famille de la classe moyenne supérieure. Mais à quelques exceptions près, on retrouve effectivement ce clivage qui fonde d'ailleurs une partie du ressentiment des militants d'extrême droite qui considèrent qu'au fond, ils sont des petits blancs exclus et qu'il y a en face d'eux un groupe qui se prévaut du soutien aux idées d'extrême gauche, donc dans leur imaginaire de la classe ouvrière, des plus pauvres, des plus démunis, et qui sont en fait des enfants de bourgeois et de futurs bourgeois eux-mêmes. C'est quelque chose qui a toujours été très prégnant et qui, je crois, a été exprimé maintes fois par Serge Ayoub, dont c'était un des chevaux de bataille favoris.
Jean-Yves Camus, spécialiste des extrêmes droites en France et en Europe, il est 22h11, vous écoutez bien France Culture. Cette information en bref qui a à voir avec l'actualité française, un prêtre de l'agglomération de Pau, soupçonné d'agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans, l'homme d'église, a été mis en examen, remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de fréquenter des mineurs. Les accusations portent sur des faits qui peuvent remonter aux années 80 et l'instruction qui s'ouvre doit vérifier s'il y a prescription. Après le chef de l'État, le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement cible à mots couverts la commission d'enquête du Sénat sur l'affaire Benalla. Alexandre Benalla convoqué devant cet auditoire le 19 septembre prochain. Christophe Castaner va jusqu'à y voir, je cite, une menace pour la République, fin de citation. Voilà qui rappelle les postures politiques prises par les uns et les autres au début de l'affaire, Adrien Toffolet.
Souvenez-vous, cet été, l'affaire éclate au grand jour, quasi silence de l'Élysée, et très vite, les macronistes lancent leurs éléments de langage. L'opposition essaye d'en faire une affaire d'État, de faire obstruction au travail parlementaire, ou encore, ce n'est pas l'opposition, mais la justice qui juge. Jusqu'au Premier ministre, votre espoir est d'atteindre le chef de l'État, avait lancé Édouard Philippe en réponse aux mentions de censure de la gauche et de la droite. Scandale dans les rangs de l'opposition. Et cette semaine, c'est la même méthode victimaire qui est appliquée à l'encontre des sénateurs. Pas un mot de la présidence. À la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, qui parle d'une instrumentalisation politique. Ou dernière salve en date ce matin de Christophe Castaner, comme vous l'avez dit, si certains pensent qu'ils peuvent s'arroger un pouvoir de destitution du président de la République, ils sont eux-mêmes des menaces pour la République, a dit le ministre, qui, on le rappelle, s'occupe des relations avec le Parlement. Et que dit le reste du Parlement, justement? Sans surprise que l'exécutif protège Alexandre Benalla, dixit le sénateur LR Bruno Retailleau, que l'exécutif fait une crise d'autorité, ça c'est signé Jean-Luc Mélenchon. Finalité de ce petit jeu, c'est difficile à dire. Est-ce de l'arrogance de la part d'Emmanuel Macron? Il y en a certainement un peu. Est-ce une stratégie de défense ou d'évitement? C'est très probable. Dénoncer la partialité de ses adversaires au moment où ces derniers se préparent à questionner Alexandre Benalla. On est dans une opération pure de communication politique, dénonçait il y a quelques jours le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux. Oui, mais de la part de la majorité comme l'opposition.
Merci à vous, Adrien Toffolet. La déclaration inquiétante du gouverneur de la Caroline du Nord, la tempête ravage notre État, déplore Roy Cooper. Nous sommes très inquiets que des localités entières puissent être détruites. L'ouragan Florence a touché terre au petit matin sur la côte Est où il déverse des pluies diluviennes et provoque les premières inondations. Sur place et en plein vent, Grégory Phillips à Wilmington.
Les rafales de vent font bouger les voitures, même les plus gros pick-up, danser les arbres et les feux rouges au-dessus des rues. Pas très loin, on entend l'explosion d'une armoire électrique qui n'a pas résisté à Florence, mais l'ouragan est moins fort que redouté. En revanche, il progresse extrêmement lentement et va donc rester plusieurs heures au-dessus de Wilmington et déverser d'énormes quantités de pluie. Robert est venu d'Atlanta, Géorgie, employé par une société qui, dans les prochains jours, sera chargé de tout nettoyer ici. Il est l'un des rares à s'aventurer dans le centre-ville.
J'ai envie de vivre cette expérience de tempête. C'est mon premier ouragan. Je voulais voir ce que ça fait d'être dans des rafales de vent à 150 km/h. Il y a des bourrasques vraiment très fortes qui vous mettent presque par terre. Mais ça va, je le sens bien. Faut juste faire très attention aux débris qui volent et qui peuvent vous frapper et vous blesser sérieusement.
Ce qu'on redoute le plus sur cette côte, ce sont les inondations et la montée des eaux jusqu'à 3 ou 4 mètres par endroit. Les autorités préviennent, l'ouragan est encore dangereux pour les 24 ou 36 prochaines heures.
Et l'ouragan Florence a fait ses premiers morts, annonce à l'instant de la police de Wilmington. Une femme et un bébé tués lorsqu'un arbre est tombé sur leur maison. Le père a été blessé et hospitalisé. Les inondations et les glissements de terrain, c'est ce que redoutent par-dessus tout les autorités philippines. 7 millions d'habitants des zones côtières du nord de l'archipel pourraient avoir affaire au super typhon Manukut. Première rafale chronométrée à 205 km/h. Quelques mots de la météo beaucoup plus calme, celle de la France pour demain. Temps ensoleillé sur la majeure partie du pays, nuageux près de la Manche.